France Inter.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme chaque samedi, on se retrouve pour Zoom Zoom Zen en version meilleure de nous-mêmes. On se donne une heure pour tout comprendre de notre monde, ces nouveaux mots qui traversent le débat public et animent vos discussions à la machine à café. Une heure pour apprendre en s'amusant. Une heure de ce que je qualifierais, si je devais employer une expression pompeuse, de pédagogie rieuse. À mes côtés, deux journalistes résolument jeunes et rieurs, Manon Mariani et Quentin Lhuy. Manon vous décryptera les tendances qui montent sur les réseaux sociaux. Quant à Quentin, il sera votre porte-voix pour son micro-trottoir complètement à la rue. Le best-of de Zoom Zoom Zen, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous accueillir dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen chaque après-midi. Une heure pour décrypter notre époque, ses mots, ses expressions, ses phénomènes et parfois même, comme aujourd'hui, ses cartes. Manon Mariani, qui avait eu 0 sur 8 dans la partie géo de l'épreuve histoire géo du bac, attendait avec impatience cette émission. Il y a longtemps maintenant qu'elle me tannait. Le mot harcèlement n'est pas trop fort. Mathieu, quand est-ce qu'on fait une émission sur la géographie? J'adore ça, hurlait-elle souvent après quelques gin tonic. Voilà, ce jour est enfin arrivé, Manon. Espérons que vous l'avez mieux préparé que votre carte du bac géo, puisque je rappelle que si vous aviez eu 0, c'est parce qu'à la question compléter la légende, les zones laissées blanches sur cette carte de France correspondent à, vous aviez répondu assez laconiquement, l'agriculture. Cela dit, la question était perfide et c'est précisément notre thème du jour. Sur une carte, il y a toujours du blanc et même beaucoup de blanc. Mais à quoi correspond ce qui ne renvoie pas à une légende? Qui décide du blanc des cartes? Pour Cyril Lacarrière, ça ne fait aucun doute, c'est Jules Ferry. Oui. Le ministre de l'Éducation nationale en poste quand il était au collège. À l'époque, les cartes n'étaient pas aussi compliquées, se souvient nostalgique le demi-frère de Pascal Praud. Il y avait nous au centre, les rosbifs en rouge au-dessus et les boches à l'est. Hélas, nous allons découvrir au fil de cette émission que ce n'est pas Jules Ferry qui a présidé au choix du blanc des cartes. Alors qui? Restez avec nous pour le découvrir. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Et bonjour Mathieu Nouchet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Mathieu, vous êtes géographe, c'est vous qui aviez mis 0 sur 8 à la Marianoche au bac. Et vous êtes plus précisément spécialiste des sciences de l'information géographique. Vos recherches portent sur la dimension politique et sociale des usages de la cartographie. Et vous êtes l'auteur du livre Le Blanc des Cartes, quand le vide s'éclaire, qui sort aujourd'hui même aux éditions Autrement. Livre coécrit, il faut le préciser, avec Sylvain Genevoix et le cartographe du journal Le Monde, Tché-Martin Laborde. Je l'ai bien dit ?
C'est parfait.
C'est parfait. Alors Mathieu, vous allez nous expliquer ce que cache le blanc des cartes. Mais déjà, Mathieu Nouchet, vous écrivez que les blancs des cartes peuvent provoquer des fantasmes sur ce qu'ils cachent. Alors moi, ça n'a pas provoqué de fantasmes chez moi, mais de quel genre de fantasme on parle? Vous, ça vous a fait fantasmer?
Alors moi, mais pas que moi. Hein. Non, c'est pas une pathologie. Je pense que ça peut provoquer beaucoup de fantasmes et ça a pu provoquer beaucoup de fantasmes, notamment chez tout un tas d'explorateurs qui, en fait, fascinés par ces zones en apparence vides, ont pu monter un certain nombre d'explorations pour partir à la découverte de ces mondes anciens. Et puis, plus récemment, en fait, les blancs des cartes, ça suscite aussi, ça développe en fait l'imaginaire de tout un tas de créateurs, notamment de romanciers. On peut citer par exemple le livre de Philippe Vassé, Le Livre Blanc, dont le fil narratif en fait est assez simple. Hein. Il prend une carte de la région Île-de-France, une carte de l'IGN, la carte bleue, la des randonneurs, et il va explorer tous les blancs de cette carte. Et donc finalement, il va aller explorer toutes les friches industrielles, commerciales, agricoles qu'on peut trouver, les bretelles d'autoroute, tout ce qui se cache derrière ce blanc des cartes. Et ce qui met très bien en évidence, c'est que blanc sur la carte, ces zones sont en réalité multicolores, pleines d'activités, souvent d'ailleurs des activités un peu informelles.
C'est ce qu'on va découvrir dans cette émission. En bout de table, une rumeur infâme circule selon laquelle il n'aurait accepté de venir bosser un 1er mai que lorsque les RH lui ont appris que c'était payé double. C'est faux, hein, c'est mu seulement par son sens du service public qu'il a préféré laisser femmes et enfants pour venir nous parler du plan des cartes. Bonjour Cyril Lacarrière.
Vous me surestimez, Mathieu, c'est gentil. Bonjour.
Alors oui, j'essaie de rêver un peu. Ouais. Alors Cyril, puisque vous êtes la mémoire vivante de la géographie française.
Non, c'est pas vrai.
Racontez-nous déjà les cartes du monde, d'où ça sort.
Accrochez-vous, nous partons pour 3000 ans avant Jésus-Christ, notre sauveur.
Oh là là, c'est tous les jours.
3000 ans, 3 millénaires, c'est-à-dire plus de 5000 ans avant Zoom Zoom Zen. Et si on remonte si loin, c'est qu'il a été admis que c'est à cette époque qu'on remonte la toute première carte. Cette carte, c'est celle de Gassur, une ville irakienne qui s'est ensuite appelée Nuzi. Si elle est considérée comme la toute première du genre, c'est qu'elle contient toutes les caractéristiques d'une carte, à savoir orientation, pictogramme, toponyme etc. Des détails tracés sur une tablette en argile qu'on a retrouvée lors de fouilles en 1930 et qui appartient aujourd'hui à un musée de l'université de Harvard. Alors sur cette carte, il y a déjà des blancs, mais je pense que c'était juste pour faire plus simple qu'à l'époque, pas de fantasme derrière tout ça.
Et ensuite, il va falloir attendre très longtemps avant de voir apparaître la première carte du monde.
Oui, c'est vrai, mais c'est encore très loin de nous puisqu'on attribue à Anaximandre d'avoir été le premier à en dessiner une, et c'était en 600 avant Jésus-Christ. Cette carte est, disons, partielle et partiale, puisqu'elle est centrée sur la Méditerranée et découpée en trois continents, l'Europe, l'Asie et la Libye, autour un océan tout rond. Une carte qui introduit déjà à l'époque que la Terre pourrait être ronde, on est 2000 ans avant Galilée. Après, et tout au long des siècles, chose intéressante, les maps mondes vont souvent avoir un prisme religieux. 1492, c'est l'année du premier globe terrestre. Il est l'œuvre du navigateur Martin Benaïm, un tout petit globe car il ne fait que 50 cm de diamètre. On est sur une dimension de type bûche. Quant à la première carte de France moderne, on la doit à Horace Finn, un astronome et cartographe. La carte a un petit nom, la Gallia, et elle est créée en 1525. Une anecdote, enfin, pour finir, en fanfare, ce DCS.
Ah oui, vraiment, fanfare.
On aurait dû mettre d'ailleurs une musique de fanfare.
On pourrait
la prochaine fois. Soutenir un peu le propos.
Quand il se lance à la découverte de ce qui deviendra l'Amérique, Christophe Colomb se base sur une carte faite par l'astronome italien Paolo Toscanelli, qui remonte à 1468. Problème, dans cette carte, il montre l'Europe séparée de l'Extrême-Orient par un océan de seulement 10 000 km de large. Il y aurait même une île au milieu. Du coup, ce bon vieux Christophe se dit que ça se tente. Il pense même que son voyage fera moins de 5 000 km. Finalement, ça sera 4 fois plus. Mais sans cette erreur, il n'aurait jamais découvert le Nouveau Monde. Et aujourd'hui, nous n'aurions pas d'iPhone. Alors, qu'est-ce qu'on cache dans les cartes? Pourquoi y a-t-il des blancs dans les...
Je souhaite d'avoir raconté tout ça juste pour... parce qu'il avait cette balle et qu'il voulait la placer
quelque part. Si l'Égyptien n'était pas là.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est une bonne question, Quentin. Alors, qu'est-ce qu'on cache dans les cartes? Pourquoi y a-t-il des blancs dans les cartes? Qui les décide? Pourquoi donc ces blancs éveillent notre curiosité? Et si le blanc était plus intéressant que le reste? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Mathieu Nouchet, après cette chronologie non exhaustive de l'histoire des cartes, on a besoin de vous pour comprendre ce que cache ce fameux blanc des cartes auquel on consacre notre émission aujourd'hui. Votre intro s'appelle d'ailleurs « Pour un atlas du vide ». Mais je crois que ce blanc, c'est tout sauf du vide, comme vous nous disiez.
Alors effectivement, c'est tout sauf du vide. En fait, il faut peut-être commencer par considérer qu'en fait, le blanc, c'est inhérent au geste cartographique. À partir du moment où on veut dessiner, représenter un territoire, il faut faire des choix. On ne peut pas faire une carte au 1/1, donc on est obligé de faire une sélection de ce qu'on va représenter. Est-ce qu'on va représenter les bâtiments, les routes? Quel type de bâtiment? Quel type de route? Comment on va les qualifier? Comment on va les représenter? Et donc forcément, derrière ces choix, il y a toute une partie qu'on va mettre de côté. Donc moi, ce que je dis souvent aux étudiants, c'est que la cartographie, c'est aussi l'art de l'omission. On va savamment sélectionner ce qu'on va vouloir représenter ou pas. Et la thèse qu'on défend dans ce livre, c'est vraiment de dire que plutôt que de se contenter de regarder le contenu des cartes, regardons tout ce qu'elles mettent de côté, donc explorons le blanc et montrons notamment qu'il y a un certain nombre d'enjeux politiques à comprendre ce qu'on invisibilise finalement à travers la production cartographique.
Et puis aussi une autre raison à laquelle j'avais jamais pensé, vous rapportez les propos de l'écrivain Tim Robinson qui dit qu'il serait impossible d'utiliser et même de supporter de regarder une carte qui ne serait pas majoritairement blanche.
Effectivement, en fait, on peut se retrouver finalement parfois face à des visuels où on sature d'informations et donc la cartographie suit tout un tas de règles très précises, de normes en matière de production, et il y a à chaque fois vraiment un travail qui est fait pour en avoir que l'information utile. Et donc c'est intéressant de comprendre ce qui apparaît comme utile pour le cartographe ou pour son commanditaire, et c'est intéressant de le comprendre aujourd'hui, parce qu'on a été beaucoup là dans l'histoire et la géographie, c'est très lié, mais en fait pour moi le message important, c'est de dire que le sujet est tout à fait contemporain. Aujourd'hui on a l'impression qu'on est sous un déluge de données, qu'on a des globes virtuels avec Google Earth ou je ne sais quoi. Donc il n'y a plus de blanc, finalement, il n'y a plus de vide sur les cartes, on sature d'informations. Ce n'est pas tout à fait vrai, il y a un niveau d'information très différent en fonction de l'endroit où on est sur la planète. Il y a encore une fracture numérique très forte qui peut se lire à travers les cartes.
Qu'est-ce qui se cache sous le blanc des cartes? Qui décide de ne pas tout montrer? Et d'ailleurs, est-ce qu'on veut vraiment tout savoir? On continue de parler du blanc des cartes avec le géographe Mathieu Nouchet, juste après Moon Martin, Bad News sur Inter. Some
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Ce n'est peut-être pas votre raison de vivre comme Manon, mais la géographie est une matière passionnante. Et cet après-midi, dans Zoom Zoom Zen, on se penche sur le blanc des cartes avec vous, Mathieu Nouchet, vous êtes géographe, et vous avez justement coécrit le blanc des cartes quand le vide s'éclaire. Mathieu, qui décide de ce qu'on voit ou de ce qu'on cache sur une carte?
Le cartographe.
Mais
le
tout seul, il n'y a personne qui contrôle.
Non, le cartographe ou son commanditaire. Donc effectivement, la cartographie, c'est un instrument politique avant tout. Donc c'est intéressant de regarder qui sont aujourd'hui les producteurs de cartes ou qui pouvaient être hier. Et donc on réalise, nous, tout un travail un peu de généalogie pour remonter, pour regarder quelles sont les sources qui sont mobilisées, qui produit des cartes. On en parlera peut-être un peu plus tard autour du numérique, mais il y a une démocratisation en fait de la cartographie. Aujourd'hui, avec nos téléphones, on peut très rapidement déposer des traces, cartographier n'importe quel objet dans des systèmes un peu divers et variés. Donc le profil du cartographe s'est extrêmement diversifié ces dernières années.
Comment ils sont mis à jour, ces blancs des cartes? Je suppose que ça a quand même évolué énormément au fur et à mesure des années.
Alors ça a évolué en fait en fonction des pays, des territoires. Donc historiquement, il y a des instituts de cartographie qui ont produit à partir de tout un tas de normes. Et puis comme je vous le disais, il y a ensuite une grande diversité, une grande variété d'acteurs qui sont mis à produire des cartes, des scientifiques, des entreprises privées, des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, on a des systèmes comme par exemple OpenStreetMap, qui est l'équivalent de Wikipédia, mais pour la cartographie. Donc c'est un système libre, ouvert, et n'importe qui, vous pouvez prendre votre téléphone, aller sur Internet et combler certains blancs de cette carte mondiale.
J'aimerais qu'on remonte un peu sur le côté politique des cartes, parce qu'il y a quelque chose qui permet de bien le comprendre si on remonte dans l'histoire. Et la cartographie coloniale, vous parlez de l'effacement délibéré de certains territoires autochtones. Quel rôle cet effacement a joué dans la colonisation de ces pays?
Alors ça, c'est un rôle vraiment clé. En fait, très souvent, on a coutume de dire que la cartographie, c'est une science cumulative. On accéderait à toujours plus de données en temps réel, toujours plus d'informations. Donc quand, par exemple, ma grand-mère me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je lui réponds « Je suis cartographe. » Elle me dit « Mais en fait, tu fais rien, il n'y a plus rien à cartographier. Tout a déjà été cartographié. » Bah non, ça marche pas vraiment comme ça. Il y a des grands retours en arrière dans l'histoire, et notamment au moment des conquêtes coloniales. Donc souvent, je montre, par exemple, deux cartes qui ont été produites sur la Guyane. Au moment de la colonisation, et qui ont à 30 ans d'intervalle, où en fait on représentait des villages autochtones amérindiens, et 30 ans après ils ont été effacés.
Alors dans quel but?
Comment?
Alors qu'ils existaient,
alors qu'ils existaient toujours, et alors que il y a encore des habitants qui les occupent. Dans quel but? Dans le but de créer le mythe de la Terra Nullius, de montrer que en fait on est face à un territoire vide, vierge, fertile, à conquérir, et donc d'inciter les colons à aller dans ce blanc des cartes pour pouvoir le combler, le nourrir et le développer.
Et justement, aujourd'hui, j'imagine que le blanc des cartes correspond de moins en moins à des Terra Nullius, puisque quand même, j'imagine que tout, enfin peut-être pas, hein, mais vous allez nous le dire. Est-ce qu'il y a encore des terres vierges sur Terre?
Alors en fait, le blanc des cartes aujourd'hui, il y a deux aspects peut-être à prendre en considération. D'abord, il y a encore sur certains jeux de données, puisqu'en fait la cartographie s'est énormément diversifiée, donc on cartographie maintenant des choses très diverses et variées. Il y a encore des zones qui sont faiblement cartographiées ou peu cartographiées. Par exemple, l'océan c'est le parent pauvre de la cartographie, puisqu'on peut pas l'arpenter facilement. Alors il y a de l'imagerie satellite, il y a tout un tas de capteurs qui nous permettent de le cartographier, mais la bathymétrie, qui est le relief sous-marin, est par exemple très mal cartographié. Les océans, c'est 70% de la planète, de la surface de la planète. On considère aujourd'hui qu'il y a à peu près un quart des océans, des fonds sous-marins qui sont correctement cartographiés. Il y a un projet qui s'appelle Seabed et qui vise à l'horizon 2030 de cartographier l'intégralité du relief sous-marin. Mais c'est là où le deuxième aspect doit rentrer en ligne de compte, c'est que parfois on cartographie le territoire mais de façon plus ou moins grossière. Et donc en fait, on aura sans doute à l'horizon 2030 une cartographie complète du relief sous-marin, mais dans certains secteurs ce sera très précis et dans d'autres ce sera au contraire très grossier.
Quentin, comment on cartographie le fond de l'océan?
Alors, le fond de l'océan, on le cartographie beaucoup à partir des bateaux, des navires qui ont des radars et qui permettent en fait de faire des relevés. Donc quand on regarde la couverture de cette cartographie, c'est souvent des grandes lignes droites puisque c'est les trajectoires de ces navires. Et puis par exemple, on peut utiliser aussi des drones. Il y a maintenant des drones sous-marins qui peuvent aussi réaliser un certain nombre de campagnes de cartographie des fonds.
Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est une journée particulière pour Quentin. 1er mai 1994, 1er mai 2024, nous sommes 30 ans jour pour jour après le décès d'Ayrton Senna. Or, on n'a pas le temps ici d'expliquer l'obsession de Quentin pour la Formule 1. Disons simplement qu'il est déjà très humiliant de se faire surprendre en train de mater une vidéo porno sur son lieu de travail. Alors, imaginez vous faire surprendre en train de mater une vidéo d'une interview d'Alain Prost sur Antenne 2 en 1992. C'est pourtant ce qui est arrivé la semaine dernière à Quentin. Effectivement, véritable fétichiste de la F1, on est inquiet pour vous, Quentin. Et pour chasser les idées érotiques qui forcément vous assaillent quand on évoque le nom d'Alain Prost, quoi de mieux, Quentin, que de nous présenter votre micro-trottoir ?
Eh bien, voilà, de la joie, car c'est un sujet, bien que flou, le sujet est passionnant. Je suis à côté du musée de Cluny, quand Manuel, petite quarantaine, découvre...
Le blanc des cartes.
Quoi ça vous fait penser ?
Au-dessous des cartes, l'émission, sur Arte. Okay. Qui parlait de, justement des cartes, tu prenais des cartes, et en fait c'était la vulgarisation scientifique.
Pourquoi ça vous a parlé à ce point-là ?
Parce que je suis géographe de formation.
J'ai le droit d'avoir de la chance. Oui, je vous rappelle qu'il y a deux semaines, j'ai sauvé ma chronique avec Fabrice Drouel. Donc il fallait bien que la roue tourne. Parlons justement de remplir une carte.
En deux minutes, à la radio.
C'est le but. On n'a pas le temps aujourd'hui.
Alors le blanc des cartes, donc le vide. Pourquoi il y a un blanc sur une carte ? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre dedans ? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? Donc une carte blanche est en fait un canevas, comme pour un peintre, une toile avec qu'on va remplir derrière.
Le problème, c'est qu'une fois la carte remplie, il reste du blanc.
Alors après, si on commence à faire la théorie du complot, la zone 51 aux États-Unis qui est censée pas être représentée.
Elle est nommée d'ailleurs sur la carte ?
Je suis pas sûr qu'elle soit nommée, j'ai jamais été vérifié. Mais après, si on commence à parler des cartes modernes, par exemple, vous pouvez prendre Google Maps ou Google Street View qui vous permet de vous représenter la Terre entière. Et si vous parlez de blanc et de vide, vous avez certaines zones qui sont complètement vides. Vous prenez par exemple la Corée du Nord, puisque ces pays-là ne laissent pas les gens cartographier leur espace. Donc on a un blanc cartographique. Pour ça, il faut autoriser les voitures de Google à circuler avec leur caméra. Je ne suis pas sûr qu'en Corée du Nord, Kim Il-jung soit particulièrement OK avec le sujet.
Ouais. Google Street View en Corée du Nord, on ne l'a pas, c'est pas faux. Et en même temps, elles font si peur, ces voitures, que je les confonds toujours avec celles qui contrôlent le parc-mètre. Dernière chose, Manuel aime les vieilles cartes.
Après, ce qui me fascine dans les cartes anciennes, qui étaient effectivement artistiques, dans lesquelles on va pouvoir représenter des créatures sur le côté des cartes, on va représenter des montagnes, non pas avec les isomètres des montagnes, on va représenter les montagnes qui vont être dessinées quelque part.
Je suis allé au musée du Vatican il n'y a pas longtemps.
Bah moi ça tombe bien, moi aussi.
Il y a une salle des...
Il y a une salle complète, effectivement, avec des cartes qui représentent l'Italie.
Il y a exactement ce que vous êtes en train de décrire.
Voilà, exactement, je pensais à ça, puisque j'ai été sur l'affaire à moi, donc voilà. C'est aussi la carte, c'est aussi une dimension de pouvoir. Cartographier l'espace et le maîtriser, et donc c'est pouvoir. La carte, c'est un instrument de pouvoir.
Je longe la rue et Jeanne me demande de lui garder une place pour sa voiture.
Bonjour.
C'est quoi votre prénom ?
Je m'appelle Jeanne.
Je vous ai gardé votre place.
Vous m'avez gardé la place en plus, vous êtes adorable.
Qu'est-ce que vous faites en ce moment ?
Alors en ce moment, je suis en train de vider l'appartement de mon père décédé il y a quelques mois.
Okay. Voilà, il y a les spécialistes en blanc des cartes et les spécialistes en blanc dans les conversations. Voilà, donc je vais faire un livre un jour, je poursuis malgré tout.
Le blanc des cartes, alors il faut savoir quand même qu'il n'y a aucun endroit sur Terre que l'humain n'a jamais visité.
Donc on n'a plus de zone de flou.
En théorie, il n'y a plus de zone de flou.
Et donc tout le livre repose là-dessus, pourquoi on les laisse blanches ?
Parce qu'elles n'ont certainement aucun intérêt politique... et ou social de nos jours.
Et qu'il décide de ça, c'est toute la question. Lui, avec son sac à dos, sort du magasin au Vieux Campeur. Vous savez, c'est ce magasin...
Pas bien.
On sait, alors que Manon pensait que c'était quelqu'un
pour
qui...
Pour le camping.
Oui, c'est ça, exactement, pour le camping. De randonnée, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Jacques.
Et vous avez dans les mains ?
Une carte de Nouvelle-Zélande. C'est moins cher qu'un billet d'avion pour l'instant. Donc je commence comme ça.
Est-ce que le voyage commence au moment où on achète la carte ? Peut-être. Jacques découvre...
Le blanc des cartes. J'essaye d'en avoir un minimum, mais c'est pour ça que j'essaye de trouver toujours les plus grandes échelles. Et plus on prend détaillé, moins il y a de blanc. Quoi, donc,
on peut l'ouvrir, on va regarder s'il y a des blancs.
Oui. Ah bah il y a sûrement du blanc, mais après c'est pareil, je choisis aussi les cartes pour qu'elles soient le plus lisibles possible, je pense.
Qu'est-ce que ça raconte, les cartes ?
Bah oui, je sais, je suis un vieux. Hein. Et j'aime bien toucher, j'aime bien, c'est comme les livres par rapport aux liseuses, j'aime bien avoir le toucher des cartes, le...
Et Jacques, justement, repense à ses voyages.
Par exemple, j'ai traversé le désert, j'ai traversé le Sahara avec une seule carte de toute l'Afrique. Et à l'époque, le guide du routard, il faisait 1,5 cm d'épaisseur et le smartphone n'existait pas. C'était...
Eh ben vous avez traversé un blanc de la carte. Puisque
j'ai traversé un blanc. Ouais.
Alors à quoi c'est si blanc que ça ? C'est si vide que ça ?
Non, il y a plein de vie dans le désert. Aussitôt qu'on s'arrête où il n'y a personne, aussitôt il y a quelqu'un qui sort de derrière la dune... Et c'est très très habité, on croit que c'est inhabité, mais il y a du monde.
Traverser une partie d'une map monde pour se rendre compte qu'elle n'est pas si vide que ce que disait la carte, cacher, rendre invisible et avoir le pouvoir de le faire, en y réfléchissant, le blanc des cartes n'est pas si vide qu'il n'y paraît.
et on salue Manuel avec qui visiblement vous êtes allé en Italie, puisque c'est
un timing
à peu près. Qu'est-ce que nous cache ce blanc des cartes, Mathieu Nouchet? Quentin a visiblement croisé par hasard une fois de plus un confrère. Il parle de la Corée du Nord, pas de Google Street View en Corée du Nord, ça fait sens en tout cas. Qu'est-ce qu'on sait de la cartographie de la Corée du Nord?
Alors, on n'a pas donc de cartographie officielle puisque les Coréens gardent pour eux leur production cartographique. Par contre, ce qui a changé quand même énormément depuis notamment les années 70, c'est que maintenant on utilise l'imagerie satellite et que donc on n'est pas obligé de faire voler des avions au-dessus des pays pour lesquels on n'a pas les autorisations pour produire des cartes. Donc on a un certain nombre de cartes mondiales qui sont produites et l'armée française, par exemple, produit tout un tas de cartes sur des terrains d'opérations extérieures. Donc il y a tout de même une cartographie qui est produite. Après, plus près de chez nous, il y a aussi des blancs dans la carte de Google Street View. Donc Street View, on peut rappeler peut-être pour les auditeurs, c'est quand vous zoomez dans Google Maps, le système qui vous permet de voir à hauteur de Dieu, voilà, les bâtiments. Alors c'est vraiment dans un but commercial. Hein. L'idée, c'était de pouvoir repérer des boutiques et même vous avez un Street View Inside qui vous permet d'aller de rentrer chez le fleuriste et d'acheter un bouquet dans certaines métropoles. Et donc jusqu'en juillet 2023, il n'y avait pas de Google Street View en Allemagne, hein, puisqu'en Allemagne, il était interdit. Une législation avait été passée pour que l'espace public puisse pas être pris en photo par une firme internationale, par une firme américaine. Ça a changé, c'est géré maintenant à l'échelle des Landers et c'est intéressant aussi de regarder comment Street View répartit ses efforts parce que vous avez effectivement les voitures qui ressemblent là à des radars, mais vous avez aussi plein de gens qui utilisent Street View avec des sacs à dos. Il y a un sac à dos Street View qui vous permet d'aller sur différents endroits. Donc il y a aussi une espèce de recherche de Google d'aller dans des lieux de plus en plus insolites et moi ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a dit en début d'émission, cette idée qu'on va aller combler les blancs de Street View dans des endroits un peu incroyables.
Jacques et sa traversée du Sahara. On croit que c'est vide sur la carte alors qu'il y a du monde derrière chaque dune. Comment le Sahara est représenté sur nos cartes en 2024?
Bien souvent, effectivement, le Sahara est représenté par un vide ou par quelque chose d'extrêmement homogène, alors que, en fait, c'est un territoire qui est très largement parcouru. Donc, on pourrait le représenter avec tout un tas de traces. C'est un territoire aussi qui est habité. C'est un territoire dans lequel il y a tout un tas de phénomènes qui sont mouvants et qui se déplacent. Et donc, il y aurait toute une cartographie bien plus détaillée à faire que cette grande un aplat de couleurs un peu simple. Moi, je travaille beaucoup sur l'Amazonie et c'est pareil. L'Amazonie, souvent, on réduit ça à un paquet vert. C'est tout vert, c'est la jungle. Voilà, pour travailler beaucoup, par exemple, sur l'intérieur de la Guyane, on a montré que l'intérieur de la Guyane, c'est pas la jungle impénétrable. Au contraire, c'est un espace très largement travaillé, parcouru, qui a une mémoire, qui est habité, qui est nommé aussi par les habitants.
Est-ce que quand même l'un de leurs points communs, c'est que ce sont des endroits où c'est difficile d'avoir accès, où c'est difficile aussi de voyager.
Alors c'est à la fois ces zones comme ça qui sont un peu délaissées cartographiquement. C'est des territoires effectivement difficiles d'accès, difficiles d'aller les arpenter, donc du coup difficile d'aller faire des relevés sur le terrain. Et puis ça peut être aussi des territoires difficiles à voir vu d'en haut, puisque la cartographie ça se fait beaucoup vu d'en haut. Si je prends l'exemple de l'Amazonie, on est proche de l'équateur, il y a une couverture nuageuse énorme.
On
voit pas bien. Quelques satellites permettent à travers différentes technologies de passer à travers les nuages. Et puis l'Amazonie, c'est une canopée, c'est une densité de la forêt qui fait qu'il peut se passer plein de choses sous les arbres, mais vous ne le voyez pas vu d'en haut. Donc problème d'accès, problème de visibilité, tout ça conjugué peut conduire effectivement à laisser dans le blanc des cartes ces territoires pendant encore un moment.
Zoom Zoom Zen, le best-of se poursuit. Dans un instant, on parlera de ciné-tourisme ou comment la fiction nous donne envie de voyager et pourquoi c'est devenu un véritable enjeu économique d'accueillir des tournages. On décrypte ce phénomène avec un spécialiste du tourisme. Mais juste avant, voici Étienne Dao, Respire sur Inter.
L'homme se consume à tout petit jeu. Le charbon et les paupières en feu. Anesthésie de poison sans visage et des chants de sirènes de passage. Le soir progresse et son manteau de givre s'étend sur ses mille visages et il dérive de séduction survie au grand art de l'esquive. Il esquive. Satin de serpent, sa muse se dissout dans la nuit d'argent. Les eaux qui flambent vont se disperser et l'aveugler de paillettes d'acier. Lorsque ta vie ne semblera plus t'appartenir, que tu chercheras à t'enfuir, te reconstruire. Ouvre grand les bras, gonfle ta poitrine et respire. Bien sûr, tous les gens du passé, tous les vampires chercheront à te retenir, à te salir. Laisse un pur oxygène lentement t'envahir et respire. Dresse-toi dans le ciel bleu clair de Paris. Les drapeaux y s'efflottent haut et irradient. Les cloches à toute volée vont retentir. Laisse un pur oxygène lentement t'envahir et respire. Respire. Respire.
Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Bonjour Didier Arino.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Didier, vous êtes directeur général du cabinet Pro Tourisme. C'est un cabinet de conseil spécialisé notamment dans le tourisme et la culture. Vous allez nous aider à comprendre cet engouement pour le ciné-tourisme. Vous nous donnerez aussi des petits conseils, des idées voyages sur les traces de nos séries préférées. Mais Didier Arion, on va commencer par un conseil de pro du tourisme. Si nos auditeurs et auditrices veulent se rendre sur un lieu de tournage particulièrement surprenant, atypique, peut-être pas trop loin non plus, on reste en France. Est-ce que vous avez des idées, des pistes?
Écoutez, mon coup de cœur, c'est véritablement le bassin d'Arcachon, avec les petits mouchoirs, véritablement l'élément de décor. On n'est pas très loin de cette ambiance, mais l'avantage, c'est à une autre période de l'année, c'est qu'en plus, il n'y a pas tous ceux qui allaient voir le bassin d'Arcachon après les petits mouchoirs. On a vu débarquer un flot continu de Parisiens un peu bobos, et maintenant on les voit moins, ceux-là, donc c'est beaucoup plus agréable, c'est et c'est le moment d'y retourner.
C'est le moment de retourner à Arcachon.
Et puis un deuxième lieu qui est absolument extraordinaire, alors pas seulement comme lieu de tournage, parce qu'on peut pas dire que ça reste dans les annales du cinéma, avec les visiteurs, mais Carcassonne, qui est un endroit absolument extraordinaire, et surtout avec les enfants, parce que les enfants, ils se font le film lorsqu'ils vont à Carcassonne, et puis pour les parents, ils pourront découvrir les corbières, les vins de corbières, les châteaux Qatar. Donc c'est une autre destination absolument extraordinaire, et d'ailleurs avec des choses absolument fabuleuses, et puis en plus ça fait le lien entre le cinéma et le vin pour Manon, avec le no-tourisme, donc véritablement une destination à découvrir.
Cyril est déjà en train de réserver ses billets. Justement, lui, je sais ce qu'il aimerait voir comme lieu de tournage mythique. Je sais, depuis quelques semaines, il se fait plus pressant en me demandant quand je serai dans le sud cet été. Oui, Cyril, rassurez-vous, je vais vous emmener voir la gendarmerie de Saint-Tropez. Je vous prendrai même en photo devant si vous voulez. On fera un selfie tous les deux. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes. Bonjour
c'est
à
son
tous.
Rêve, il n'ose pas vous
c'est
le dire.
C'est la meilleure blague.
Alors Cyril, racontez-nous.
C'est la meilleure blague.
C'est une bonne blague.
150 émissions. Non, il a fait mieux. Elle est pas mal, mais il a fait mieux. On met des notes aux blagues maintenant.
Qu'est-ce qu'on est peu de choses finalement.
On est peu de choses.
Alors Cyril, racontez-nous le ciné-tourisme, d'où ça sort?
Eh bien, j'ai perdu ma feuille.
C'est très drôle. Alors, mais d'où ça sort le ciné-tourisme? Eh bien, du tourisme, tout simplement, Mathieu.
J'ai perdu une feuille.
Et de la démocratisation du tourisme. Est-ce que tu veux ton... échange de feuilles et tout rentre dans l'ordre.
C'est vous
la
avez
joie,
vos lunettes,
Cyril? La joie du tourisme.
D'où ça sort le ciné-tourisme? Eh bien, du tourisme, tout simplement, et de la démocratisation du tourisme. Remontons en arrière. C'est en Angleterre que le terme apparaît, au XVIIIe siècle. Il est traduit en 1838 par Stendhal. Tourism devient tourisme. Et à l'époque, l'époque, le tourisme désigne les voyages de loisirs à l'étranger. Et si le mot remonte à cette époque-là, c'est parce qu'avant, on ne voyageait pas, ou presque. Et puis même au 19e, d'ailleurs, c'est surtout l'élite qui voyage. C'est bien, bien plus tard que les choses vont basculer. En 2018, 1,4 milliard de touristes internationaux ont voyagé. Et on en est arrivé là en plusieurs temps. D'abord, après la Seconde Guerre mondiale, on se déplace plus facilement grâce à la voiture. Grâce à la voiture, on voyage. Grâce aux congés payés également. Et puis, les premiers systèmes de réservation apparaissent. C'est la naissance des agences de voyage. Et c'est le début de la démocratisation du tourisme. Les classes populaires commencent à leur tour à voyager.
Et l'autre moment de bascule historique, Cyril, c'est 1985.
Avec la création de la compagnie irlandaise Ryanair. Son premier vol se déroule entre Dublin et Londres et à l'époque, Ryanair ne dispose que d'un seul appareil avec des hélices. Les débuts sont difficiles, ouais, c'est vieux. Ryanair décide de changer son modèle et de devenir une compagnie à bas coût, une compagnie low cost. Ça va être une révolution dans le paysage aérien européen. En 1997, Ryanair permet de rejoindre Dublin et Paris, enfin Beauvais, pas vraiment Paris, qui soudain devient un aéroport parisien. À partir des années 2000, le low-cost fleurit dans tous les pays et c'est comme ça qu'on en vient à voyager pour une bouchée de pain. C'est cette démocratisation générale du voyage qui va permettre d'aller partout facilement et donc, pour retomber sur nos pattes, de pouvoir nous rendre sur les lieux de tournage de nos films et de nos séries préférées. C'est comme ça qu'un jour, la Marianoche s'est envolée pour Evanston dans l'Illinois sur les traces de Lindsay Lohan, l'héroïne fétiche de son film fétiche Lolita malgré moi. Quentin, lui, est allé à Berg après avoir vu Bienvenue chez les Ch'tis. Il y est allé avec la fourgonnette des Cafés Richard et il a été évacué par la police après avoir cherché en vain Lynn Renault. Bref, qu'est-ce que le ciné-tourisme représente aujourd'hui pour l'économie du tourisme? Quel rôle jouent les plateformes de vidéos? Est-ce que cette médiatisation ne se retourne pas contre ces lieux? Faut-il tout réguler? Pourquoi Mathieu et moi avons-nous décidé de passer notre 25 décembre aux eaux de Vincennes? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Très belle référence, Cyril. Merci beaucoup, Cyril. Didier Arino, dites-nous. Quoi?
Non, rien.
Tu l'as, la référence.
Le Père Noël est une ordure.
Le Père Noël est une évidemment. Est-ce qu'il y a un lieu, Didier, qui a été une sorte de précurseur, un lieu pionnier pour le ciné-tourisme, là où les pèlerinages ont commencé, en quelque sorte?
En France, on peut dire Saint-Tropez.
Oui, c'est vrai.
Saint-Tropez, avec Brigitte, fameux Saint-Tropez. Avant les gendarmes à Saint-Tropez, il y avait accessoirement les films avec Brigitte Bardot. Et il y a eu toute une série d'ailleurs, et à partir des années, à partir de 55-56, il y a eu tout un développement de Saint-Tropez. Et pourtant, la promotion de Saint-Tropez au travers de la peinture se faisait du temps de Matisse, de Bonnard, mais bien évidemment, ce qui fait qu'une destination, alors on parle de ciné-tourisme, c'est pas nouveau, ça existe depuis, on a juste donné un nom anglais, ça fait mieux, hein, avec le set-jetting, hein. D'ailleurs ça fonctionne aussi avec jet-setting, hein, ça fonctionne dans l'autre sens, et Saint-Tropez ça a été véritablement le développement de la destination. Il faut dire que quand les destinations perdure, il y a une raison, c'est que ce sont de belles destinations.
Oui, c'est beau aussi, au-delà des films.
L'Irlande du Nord, avec Game of Thrones, bien évidemment, il y a un afflux de fréquentation. Il faudra voir si dans 15 ou 20 ans,
on en reparlera à ce moment-là. Ça alors perdure. Que la gendarmerie de Saint-Tropez, elle sera toujours là, elle sera toujours visitée chaque été.
Mais il y a un élément qui est extrêmement important, regardez, c'est à partir du moment où il y a un mythe qui se crée autour d'une destination. Tout ce qui peut être sujet à moquerie, et notamment les gendarmes de Saint-Tropez, n'impacte pas réellement la destination. Donc il y a une espèce de... Le cinéma amène véritablement à la création de véritables mythes. Et puis dans d'autres cas de figure, et c'est le cas de Marseille, on voit que cette communication positive de Plus belle la vie permet de compenser aussi une communication extrêmement négative, notamment au travers de l'actualité, où sinon Marseille apparaît comme une ville abominable, notamment les quartiers Nord, avec toutes les diffusions, tous les reportages qui sont faits. Et donc, c'est aussi quelque part une façon de redonner de la valeur à une destination qui pouvait en perdre, du fait d'ailleurs de beaucoup d'a priori, souvent.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Et si voir Vincent Cassel chevauchant un bel étalon dans Les Trois Mousquetaires vous donnait envie de visiter la Creuse? Oh oui, s'exclame Manon, preuve que le ciné-tourisme est un phénomène en pleine expansion. Voyager pour découvrir les lieux de tournage de nos films et nos séries préférées, c'est une vraie tendance. On en parle avec vous, Didier Arino, professionnel du tourisme. Est-ce que vraiment le cinéma, les séries ont le pouvoir magique d'attirer les touristes là où il n'y en a pas?
Oui. le cinéma, les séries ont ce pouvoir magique, en tout cas auprès des fans, parce que il y a plusieurs types de cinétourisme. Il y a ceux qui vont dans une destination et qui se disent tiens, ça serait intéressant d'aller voir le lieu de tournage. Hein, on passe en Languedoc-Roussillon et on décide d'aller voir la plage de Gruissan où a été tourné 37-2 le matin. Mais on ne décide pas d'aller à Gruissan pour 37-2 le matin, en tout cas rarement. En revanche, il y a tous les fans, et avec la série Game of Thrones, on a eu véritablement un phénomène de gens qui choisissaient leurs vacances par rapport au lieu de tournage. D'ailleurs, c'était même plus des vacances, c'était une forme de pèlerinage vers ces destinations. Et donc,
Didier, vous citez Game of Thrones, il y a des paysages qui sont magnifiques, donc on comprend qu'on a envie de les voir. On parle au-delà des paysages de la nature, il y a Dubrovnik, par exemple, en Croatie, c'est une belle ville. Est-ce qu'il y a des lieux moches qui sont devenus des lieux de pèlerinage simplement parce qu'ils apparaissent dans un film ou une série?
Alors, c'est plus rare, parce que les lieux moches, bizarrement, le beau se vend mieux que les endroits horribles. Mais en revanche, ça permet aussi de donner une autre ampleur à des lieux qui apparaissaient comme des lieux banals. Mmh. Et on le retrouve, regardez en ce moment, notamment avec la plage de la Grande Motte, où il y en a énormément qui viennent pour les séries télévisées, avec un si grand soleil, et avec notamment le restaurant Le Sauvage. Donc ils vont à la Grande Motte pour voir le restaurant Le Sauvage. Ça vous avait échappé, je le comprends.
Quentin ?
On plaisantait tout à l'heure, mais Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple, ça a mis quand même de la lumière sur un village du Nord qui n'était pas non plus, sur le papier, un village extraordinaire.
Oui, il y a bien évidemment des cas, mais en règle générale, on voit bien qu'il y a des phénomènes qui sont des phénomènes ponctuels. Mmh. Ce qui fait qu'une destination devient mythique, et puis il y a un phénomène de suiveurs, hein, d'ailleurs, comme les médias. Regardez, le cinétourisme, on n'en parlait pas. Et puis on décide de créer des tendances. Alors on a dit, il y a la tendance du cinétourisme, mais cette tendance, elle existe depuis bien longtemps.
Oui, c'est les plateformes, ça a été accentué avec les plateformes.
Ça s'est accéléré avec les plateformes, bien évidemment. Mais moi, j'ai souvenir en 95, en Dordogne, où on faisait une étude et on interrogeait les clientèles. Il y en avait quasiment un sur trois qui nous disait parce qu'il avait vu la série La Rivière Espérance. Et moi, j'ai toujours un énorme retard dans les séries. Vous savez, j'en suis à regarder House of Cards en ce moment.
Ah donc, oui, vous avez un peu de retard.
J'ai un peu de retard. Donc, je ne la connaissais pas. Donc, je ne la connaissais pas. Et véritablement, il y avait un afflux de clientèle vers ces destinations. Et puis, il y a aussi les villes qui avaient conscience de l'importance du cinéma dans l'attractivité de la destination. Et c'est comme ça qu'un département comme la Gironde, une ville comme Bordeaux, a eu énormément de tournages depuis les années 80. La seule différence, c'est qu'elles n'imposaient rien. Elles étaient facilitatrices de tournage. Mais elles ne mettaient pas en avant les atouts de la destination en tant que telle. Et ça, c'est la véritable nouveauté.
Ça, c'est en train de changer.
Et ça, c'est en train de changer.
On en parlera tout à l'heure dans le deuxième temps. Voir tout ce que le cinéma aussi rapporte, du coup, hein, clairement, aux villes qui se battent, qui sont un peu en compétition pour attirer les tournages. Un dernier mot sur Emily in Paris, ça c'est la série Phénomène, vous la découvrez dans 10-15 ans. Paris n'avait pas forcément besoin d'une série pour rayonner encore plus, mais il y a un phénomène, il y a certains lieux de Paris qui sont plus visités à cause de cette série.
Alors, bien évidemment, ça a eu un impact très important sur la clientèle américaine, notamment. Et en fait, cette clientèle américaine, la façon dont ils visitent les lieux de Paris, c'est un petit peu, ça me fait penser à la clientèle japonaise, il y a une vingtaine d'années, qui avait une image comme ça d'une France romantique, d'une France où tout était apaisé. Et ensuite, ils découvrent la réalité parisienne. Donc d'ailleurs, on a créé, ça a été le syndrome de Paris pour les Japonais. C'est-à-dire que ces Japonais qui sont bien élevés, qui font attention aux autres, ils étaient effrayés par ce qu'ils considéraient, à juste titre d'ailleurs, comme une forme de vulgarité. Pour les Américains, c'est un petit peu différent parce que ils sont très très fiers. Il y a une espèce de fierté d'être venus et d'avoir découvert les lieux du passage d'Emily in Paris.
Et de Lupin aussi.
Et de Lupin. Ah oui, les deux en phénomène. Quand on cumule les deux, on arrive à des plus d'un tiers des clientèles étrangères qui viennent ont vu un de ces deux films. C'est tout à fait considérable.
Lupin que vous connaissez bien puisque vous le découvrirez à l'horizon 2040-2045. Professionnel du tourisme est toujours avec nous pour zoomer sur ce phénomène du cinétourisme. Alors, comment ça s'organise le cinétourisme côté production? Est-ce que, en tant que spécialiste du secteur, vous avez constaté une demande accrue pour accueillir les tournages?
Oui, il y a toute une organisation qui s'est mise en place pour accueillir les tournages du fait des retombées économiques qui sont tout à fait considérables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Marseille, 40% du secteur de l'audiovisuel vivait grâce à Plus belle la vie. Donc ce sont 600 emplois qui ont été qui vivaient de cette série, mais les retombées, si on prend les retombées indirectes et induites, c'est bien plus important que cela. Donc ce sont des dizaines de millions d'euros d'apport dans l'économie locale, et c'est ce qui fait qu'il y a bien longtemps, avant qu'on médiatise le concept de cinétourisme, que des villes, que des régions se sont mis ont mis en place des dispositifs pour aider les sociétés de tournage. Alors d'abord en leur facilitant la tâche, en leur donnant un certain nombre de lieux dans lesquels ils pourraient tourner, mais aussi en travaillant sur l'infrastructure, sur les autorisations de tournage. Et c'est ce qui fait qu'on a de nouveau eu des parts de marché que l'on avait perdues pendant des années parce que les tournages à l'étranger étaient beaucoup moins chers, et notamment dans les pays de l'Est ces dernières années. Donc on a dû véritablement avoir une véritable politique, et d'ailleurs il y a un plan France 2030 pour pouvoir accueillir plus facilement encore la production et la réalisation de films sur notre territoire.
Vous écoutez France Inter et vous faites bien. Dans quelques instants, Marie Debreur va nous rejoindre pour nous raconter ses dernières expériences ciné-touristiques. Est-ce que ce sera aussi gratiné que la Marianoche à Lourdes ? Pas sûr. Entre vous et la ville de Lourdes, Manon, je crois qu'on peut légitimement parler de coup de foudre. Hier, vous nous disiez d'ailleurs, c'est simple, si un jour avec CV on doit quitter Paris, c'est là-bas qu'on s'installera.
Évidemment.
Racontez-nous le moment où vous avez voulu acheter de l'eau bénite. Est-ce qu'il était question de ça ?
Non, mais je voulais aller en chercher, mais j'ai pas eu le temps, vous savez.
Une petite gourde d'eau bénite, vous voulez ?
Oui,
vouliez,
oui.
Bah, pour nous en asperger ?
Justement,
vous savez, il faut partager.
Oui, bah à la place, j'ai perdu mes AirPods, donc voilà, super.
ça, on en reparlera
mais
demain.
Vous avez fait les petits trains
Manon,
oui, touristique. Bon, on va pas faire tout mon voyage à Lourdes.
Non, oui, vous avez raison, ça sera demain. Voilà. Manon, si les voies du Seigneur sont impénétrables, celles des réseaux sociaux aussi, sauf que vous les pénétrez. Je dis n'importe quoi.
Vous les décryptez.
Non, je ne voulais pas dire quelque chose de grossier du tout, mais j'ai mal formulé ma phrase. Bref, ce qui est important de retenir à ce stade de l'émission, c'est que c'est l'heure de la veille sanitaire aujourd'hui. C'est justement une série qui affole les réseaux sociaux.
C'est la série la plus regardée sur Netflix actuellement, Mon Petit Reine, en anglais Baby Reminder. Difficile d'être passé à côté ces derniers temps. Les critiques sont élogieux et les spectateurs se sont pris de passion pour cette histoire totalement folle. Je vous la résume.
Ah oui.
Mon Petit Reine suit le personnage de Donnie, un humoriste anglais un peu raté qui travaille dans un bar. C'est là qu'il fait la connaissance de Martha, une femme de 20 ans, son aînée, qui va devenir totalement obsédée par lui. Elle va le harceler pendant des années en le bombardant de messages, en allant sonner chez lui, en allant à tous ses spectacles, etc. etc. L'histoire de la série est d'autant plus perturbante qu'elle est totalement vraie. Donnie, de son vrai nom Richard Gadd, est le créateur et l'acteur principal de la série, mais aussi celui dont cette histoire est inspirée. C'est quelque chose d'assez courant dans les fictions, sauf que la passion des fans pour Mon Petit Reine est en train de prendre des proportions incontrôlables sur les réseaux.
Alors, qu'est-ce qui se passe, Manon ?
Eh bien, Mon Petit Reine est devenu une véritable obsession pour beaucoup de détectives d'Internet qui cherchent à savoir toute la vérité sur l'histoire. À commencer par trouver les vraies identités des personnes que l'on voit dans la série, notamment la fameuse stalkeuse Martha. Sur TikTok et sur X, beaucoup spéculent en partageant des photos de femmes qui pourraient correspondre, mais le tout sans preuve. Le nom d'une femme écossaise revient assez souvent dans les posts au point qu'elle a été obligée de prendre la parole dans les médias britanniques pour dire que la série parle bien d'elle, mais qu'elle est en fait la victime de l'histoire. Elle dit connaître Richard Gadd, mais ne jamais l'avoir harcelé, et elle précise recevoir des menaces de mort depuis la série sur les réseaux sociaux. Elle dit, je cite, « C'est comme l'affaire Amber Heard Johnny Depp, j'ai l'impression d'être persécutée comme Johnny Depp, je suis victime de gens fous sur Internet. » Alors, je ne pense que c'était pas forcément le bon exemple à prendre, mais ça vous donne quand même une idée de l'ampleur du phénomène. En plus de ça, Martha n'est pas la seule à être recherchée par les voyeurs d'Internet. C'est aussi le cas d'un producteur violeur dont parle la série.
Alors, est-ce que les réseaux sociaux l'ont retrouvé ?
Non, mais certains utilisateurs sont allés fouiller dans le passé de Richard Gadd et ils sont tombés sur un réalisateur anglais, Sean Foley. Pour eux, pas de doute, c'est lui le violeur car tout correspond, les dates comme le physique. Mais accuser une personne d'agression sexuelle juste parce qu'il ressemble à un personnage de fiction, c'est de la diffamation, tout simplement. C'est pour ça que Richard Gadd a dû prendre la parole sur Instagram.
Des personnes que j'aime, avec qui j'ai travaillé et que j'admire, y compris Sean
Follet, sont injustement pointés du doigt. Veuillez ne pas spéculer sur l'identité des vraies personnes, ce n'est en aucun cas l'intérêt de notre série.
L'acteur a donc essayé d'éteindre le feu avant qu'il ne soit trop tard, car on le sait, les réseaux peuvent être sans foi ni loi. Il a aussi précisé que certains éléments de sa série avaient été modifiés et que son but était que Mon Petit Renne résonne comme une œuvre artistique et que les personnes impliquées soient protégées. Après, évidemment, je peux comprendre l'envie de savoir ce qu'il s'est réellement passé. Moi-même, je suis allée checker si la fameuse Martha était en prison actuellement, mais je n'y ai pas mis le côté voyeuriste en des détectives d'Internet. Ils se rendent pas compte de la portée de leurs actes et de leurs accusations. D'ailleurs, ce phénomène a un nom, le web sleuthing.
Traduction.
Sleuth, ça veut dire détective. Donc c'est vraiment l'expression anglaise pour qualifier cette pratique d'aller diguer des informations sur des histoires virales, de vraies, pardon, sur Internet. Xavier Dupont de Ligonnès, l'attentat de Boston, Lucas Magnotta, le dépeceur de Montréal, tous les faits divers les plus glauques y passent. Ces détectives échangent leurs infos sur Reddit ou sur des sites spécialisés. Ils analysent les moindres détails des affaires. Certains vont même jusqu'à se rendre sur les lieux des crimes pour s'imprégner encore plus de ce qu'ils savent. Passé. Et forcément, les documentaires des plateformes y sont pour beaucoup. En général, ça rajoute une pièce dans la machine quand il y en a un qui sort. C'est pour ça qu'il y a une obsession en ce moment sur Mon Petit Renne. La différence cette fois, c'est que c'est une fiction et non pas un doc. Il ne faut donc pas prendre tout ce qui est dit dedans pour argent comptant. Et puis, c'est quand même assez drôle car la majorité des gens sur les réseaux disent que c'est infect d'aller harceler quelqu'un, que c'est malsain, que Martha est folle. Sauf qu'ils font exactement la même chose avec elle. L'histoire de Mon Petit Renne est certes bouleversante à plein d'égards, mais ce n'est pas la nôtre. Richard ne demande à personne d'aller le venger. Au contraire, c'est son récit, donc laissons-lui.
Merci Manon Mariani. Dans un instant, Marie De Breuer viendra nous dire si elle a plus l'âme d'une touriste ou d'une cinéphile. Le temps d'écouter The Smile, Wall of Eyes sur Inter.
Thank you.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Zoom Zoom Zen spécial ciné-tourisme entre dans sa dernière ligne droite. Marie De Breuer nous a rejoint. Et vous, Marie, si j'ai bien compris, vous êtes plus tourisme que ciné, c'est ça?
Mais ouais, je suis pas cinéphile. La dernière série que j'ai matée, c'est Dahmer, sur le tueur en série là, qui a découpé plein de gens. Et j'ai regardé, les billets d'avion pour Milwaukee coûtent un rein. C'est façon de parler.
Oh,
visiter les lieux de son film préféré, je veux bien. Mais mon film préféré, c'est La Marche de l'Empereur. Qu'est-ce que j'ai chialé là quand l'œuf il est tout gelé. C'est beau et cruel, la nature. Mais c'est chaud pour visiter, non? Il y a un aéroport en Antarctique? Je suis pas sûre. Hein. D'ailleurs, il reste de la glace en Antarctique. Je crois que tout est en train de fondre. Sûrement à cause des fans de La Marche de l'Empereur, d'ailleurs. Hein. 28 heures de vol pour aller voir des œufs congelés, ça fait qu'un bilan carbone. Je viens de fêter les 29 ans, j'ai officiellement l'âge pour congeler mes ovocytes. Là, le retour Paris 18, hôpital Cochin, ça fera moins fond de la banquise. Enfin, pas si je fais vraiment un gosse avec mes œufs. Pardon, attendez. Je me suis paumée dans ma chronique. Tout est blanc aussi, c'est pas facile de s'orienter. Non, pas une bonne idée de me faire l'Antarctique cet été. J'ai pas de gosse et je suis intermittente, mais je suis quand même haussienne et je crois que c'est pas la meilleure période. Et puis j'ai entendu dire que les pingouins étaient de vraies pinces. Puis tu ramènes quoi comme souvenir de l'Antarctique? Tiens, Christine, de l'eau. Enfin, à la base, c'était un bout de banquise, mais bon, avec le vol, ça a fondu. T'as compris, Christine? Le vol qui fait fondre la banquise, la planète qui meurt, bien écrit ce truc, non? Ça va, toi, Christine? Christine, depuis qu'elle est à la retraite, elle se fait le tour du monde de ses films favoris. La Grèce pour Mamma Mia, le Colorado pour Chérie, j'ai rétréci les gosses. Bon, chacun ses goûts. Le Kenya pour Art of Africa. Oui, c'est vrai qu'il était beau, Robert Redford. Par contre, Christine, super hein, d'avoir voté Eva Jolie en 2012, mais peut-être ralenti un tout petit peu sur les miles. T'as quand même 4 petits-enfants qui espèrent pouvoir en boire de l'eau et pas de la banquise. Oh, c'est bien écrit, mais c'est un peu déprimant quand même, cette chronique à l'autre. Je préférais quand elle parlait de cul. Pardon. Surtout que je suis pas irréprochable. Hein. Moi aussi, j'ai la carte du monde avec les gommettes sur les destinations où je suis déjà allée. Vietnam, tchèque, Laos, tchèque, Cambodge, tchèque. Je sais plus si je suis une backpackeuse aventurière ou si je suis un très vieux colon qui regrette l'Indochine. Sauf qu'Indochine, pour moi, c'est un groupe de musique et pas un film, sorti en 92, qui a chopé 5 Césars, dont meilleure actrice pour Catherine Deneuve, comme me l'a signalé Cyril. J'ai demandé à la Lune. Et la culture ciné de Marie n'existe pas. Alors, Emily in Paris, ça donnait envie aux Américains de visiter la capitale. Et c'est qu'ils n'ont pas encore vu Chimera. Chimera, c'est le court-métrage d'un pote. C'est un film muet qui raconte l'histoire d'un gars qui se transforme en chien. Mais il y a de super plans de Paris 19e dedans. Hein. La rue Crimée depuis le marché de la place des Fêtes. Une véritable carte postale. Après Paris cet été, je crois que c'est pas la bonne période. Puis tu ramènes quoi comme souvenir? Une petite tour Eiffel? Oui, bah oui, Marie. Je sais pas où je vais aller, moi. Le dernier film que j'ai vu au ciné, c'est Nous les le roi de Florent Bernard. Qu'est-ce que j'ai chialé quand José Garcia congèle ses ovocytes. Non, attendez, c'est pas du tout le pitch. Après, le film se passe en Bourgogne, loin des JO et pas loin pour le bilan carbone, pas mal. Si j'y passe tout le mois d'août, je risque peut-être d'un peu m'emmerder, mais ça sera l'occasion de mater des films et d'enfin devenir cinéphile.
Ah bah oui, merci beaucoup Marie Dobreur. On vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom Zen. Et si jamais vous parvenez à devenir cinéphile, Quentin et Cyril vous conseillent un bijou, un film.
Oui,
Opération Cornet Beef, hein, évidemment.
Mais oui. Les Anges Gardiens aussi.
Ah, aussi les Anges Gardiens en deuxième temps. Merci encore Didier Arino de nous avoir permis de décrypter ce phénomène du surtourisme. Je rappelle que vous êtes directeur général du cabinet. Et qu'est-ce que j'ai dit?
Surtourisme.
Ah oui, exactement. Ouais, parce que effectivement, on n'a pas assez parlé du surtourisme généré par le cinétourisme.
On a déjà fait une émission là-dessus.
Mais on a déjà fait une émission là-dessus.
Vous pouvez aller la réécouter.
Réécoutez-la en podcast, évidemment. Évidemment, n'oubliez pas. Merci encore Didier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce meilleur de Zoom Zoom Zen. La semaine prochaine, on vous a préparé un petit florilège de nos meilleures émissions, le temps de recharger les batteries. D'ici là, passez un excellent week-end à l'écoute d'Inter.